Europe Soir,
le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. Dans 20 minutes, un invité qui va vous faire du bien au moral. Vous voulez du positif? Eh bien vous en aurez. Frédéric Hermel publie chez Flammarion « C'est ça, la France ». Une ode à notre pays écrite par un expatrié qui revisite les petits et les grands trésors de notre quotidien que souvent nous ne savons plus voir ni apprécier. À partir de 18h30, avec les grandes voix d'Europe 1, on reviendra sur le boycott de l'opposition hier à l'Assemblée et au Sénat, sur les nouvelles mesures sanitaires, l'opposition qui est furieuse de ne pas avoir été consultée en amont. Et puis entre 19h et 20h, c'est votre débat du Club des idées d'Europe Soir. On va parler de ces affaires criminelles non élucidées. Il y en a beaucoup et c'est un drame pour les familles. Un rapport vient d'être remis au ministère de la Justice pour améliorer le traitement de ces cold cases. Mais avant cela, l'info avec le journal ce soir présenté par Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
Il est 18h, merci à vous d'écouter Europe 1.
À Paris, on vit dans des petits espaces, donc c'est bienvenu qu'il y ait enfin une tolérance au moins pour le week-end de Pâques, que les gens puissent un petit peu s'aérer l'esprit.
Il quitte Paris et sa région pour se mettre au vert avant le confinement. Le gouvernement confirme une tolérance avant le week-end de Pâques. Message reçu par les Franciliens qui ont déjà fait leur valise.
La journée est classée orange sur les routes. Demain, dans les gares, on verra si les clignotants sont au rouge. Un reportage en direct dès le début de ce journal.
Les assistantes maternelles obtiennent gain de cause. Elles pourront continuer de garder les enfants comme lors du premier confinement.
L'enquête Europe 1 sur les autotests Covid. Ils sont prêts à sortir des cartons et des hangars où ils sont stockés. Ils n'attendent qu'une seule chose, l'autorisation du gouvernement.
Les annulations de festivals s'accumulent. Après celui de la bande dessinée d'Angoulême, le festival des Eurokéennes jette l'éponge.
À Pontoise, 3 personnes en garde à vue après une expédition punitive qui a fait 2 morts et 3 blessés.
Le Racing Club de Toulon, victime du coronavirus, son 8e de finale de Coupe d'Europe contre le Leinster est annulé. Les Toulonnais qui déploraient un cas de Covid dans leur rang sont éliminés.
La météo, bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
Et comme prévu, le week-end s'annonce frais mais ensoleillé.
Oui, les températures continuent de baisser encore demain. Il va faire froid, le ciel reste lumineux. C'est dans le nord que les nuages seront les plus présents. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, sauf en période de confinement. Ils sont nombreux à vouloir profiter de ce week-end de Pâques pour quitter la région parisienne.
Effectivement, bison futé, voie orange demain sur les routes, pas seulement en région parisienne d'ailleurs, toute la France est concernée. Alors il y a ceux qui vont prendre le volant et ceux qui vont prendre le train pour profiter de ce week-end de Pâques et de ne pas vivre un confinement trop à l'étroit. On vous retrouve à la gare Montparnasse, Laura Taouchanoff, vous nous confirmez qu'il y a beaucoup de monde.
Et oui, énormément de monde. Et vu la taille des valises et le nombre de caisses avec des animaux de compagnie, c'est pas juste un petit départ en week-end. Pour beaucoup de parents, c'est le moment de déposer les enfants chez les grands-parents. Anne-Claire, par exemple, elle a dû remédier à la fermeture de la crèche de son fils de 3 ans.
Pour ce week-end, le petit va aller chez ses grands-parents et après, c'est moi qui vais m'en occuper. Donc, je vais dire à mon employeur que je ne peux pas me rendre à mon travail. C'est arrivé très soudainement, donc le temps de s'organiser, de préparer des choses. Lui, certainement, va chercher des œufs dans le jardin lundi. Et ce week-end, simplement, il va faire du vélo en forêt. Voilà, il va profiter du grand air.
S'aérer et ne surtout pas rester isolé, c'était aussi la priorité pour Florian et Marion. Ils sont en prépa et partent se confiner avec d'autres camarades de leur école.
Alors on part se confiner tous ensemble en province, dans une grande maison pour avoir un bon cadre de travail entre amis. Voilà.
On est en prépa, donc on a un rythme de travail assez élevé. Et partir ensemble pour s'aider, travailler, etc., ça va être vachement bien. On a eu la chance d'avoir un bon cadre et pouvoir partir, alors on en a profité. Donc un mois normalement.
Beaucoup de Parisiens qui profitent aussi de ce week-end de tolérance au-delà d'un rayon de 10 km pour s'échapper quelques jours avant la reprise du travail mardi. Et les billets s'arrachent depuis hier. Quasiment tous les TGV sont complets ce soir.
Laura Taouchanoff en direct de la gare Montparnasse à Paris. Alors se déplacer, oui, le gouvernement accorde une tolérance jusqu'au 6 avril pour les Français qui souhaitent partir, on l'a entendu. En revanche, se regrouper, c'est non. Ce sera même verbalisation systématique pour les regroupements de plus de 6 personnes et les fêtes dans les lieux privés, comme les appartements ou les lieux publics.
Oui, les fêtes sauvages comme celle qui s'est déroulée à Lyon en début de semaine sont dans le collimateur, bien sûr. Et à ce propos, deux frères qui affirment être les organisateurs de ce rassemblement de 300 personnes sont actuellement en garde à vue.
Elles voulaient continuer de travailler, c'est-à-dire de pouvoir garder les enfants, les assistantes maternelles, eh bien, elles ont obtenu gain de cause.
Et oui, finalement, le gouvernement les autorise à poursuivre leur activité malgré le confinement. Elles sont 280 000 en France et ces nounous ont donc été entendues, Olivier Samin.
Oui, elles vont pouvoir continuer à accueillir les enfants. Voilà ce qui ressort de la réunion qui s'est tenue cet après-midi entre le secrétaire d'État à l'enfance, Adrien Taquet, et les organisations qui les représentent. Oubliez donc le principe précédemment annoncé par le gouvernement qui voulait que les assistantes maternelles cessent de travailler pour être en cohérence avec les crèches qui, elles aussi, vont devoir s'arrêter pendant les trois premières semaines d'avril. Dans la journée, on a évoqué une solution intermédiaire, celle prévoyant qu'elles puissent accueillir les enfants des professions prioritaires, personnel soignant, policiers, mais finalement il n'y aura pas d'exclusive. Les parents sont seulement encouragés à ne leur confier leurs enfants qu'en cas d'extrême nécessité. Et s'ils ne leur confient pas leur enfant, la règle qui avait été mise en œuvre lors du premier confinement s'appliquera. Les assistantes maternelles seront prises en charge par le chômage partiel à hauteur de 80% de leur rémunération.
Olivier Samin, il y a le confinement, la vaccination, les masques, mais il manque encore un quatrième étage à la fusée. Ce sont les autotests, c'est l'enquête d'Europe 1.
Oui, c'est un autre moyen effectivement d'éviter une reprise de l'épidémie avec le vaccin. Les autotests, ce que l'on peut faire donc soi-même, arme de prévention massive, bien plus efficace que les 3 millions de dépistages réalisés chaque semaine en France.
D'autant que ce test nasal est beaucoup moins douloureux qu'un test PCR. Le résultat négatif ou positif est garanti en 20 minutes. Et on les a, ces tests, ces autotests, Victor Dolande. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont toujours pas autorisés par le gouvernement.
Oui, alors que la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert il y a 15 jours, le ministère de la Santé ne se presse pas pour les valider. D'abord, Olivier Véran a assuré que ces autotests n'étaient pas simples à utiliser. En réalité, il faut juste enfoncer l'écouvillon à 2,5 cm dans votre narine. Selon nos informations, le gouvernement va quand même lancer une expérimentation dans les prochaines semaines. Mais on n'a rien de plus précis, alors que ces autotests pourraient être rapidement déployés. La grande distribution est dans les starting blocks. Le groupe Carrefour en avait même précommandé 1 million et en a déjà reçu 20 000 qui dorment dans des hangars. Plusieurs laboratoires que j'ai contactés hier m'ont assuré qu'ils pouvaient en produire et en livrer des millions à la France. Nicolas Contasso est directeur de la communication chez Innova Medical Group Europe. Son entreprise a envoyé une offre très concrète à l'Élysée.
Nous sommes en mesure de livrer 10 millions d'autotests par jour à la France. Nous avons la capacité de production ainsi que la capacité logistique via avion cargo à travers un stock qui se trouve à Rotterdam.
Pour mesurer si on est à la traîne, sachez qu'à titre de comparaison, ce même groupe a passé un contrat d'1,2 milliard d'autotests avec l'Angleterre. Là-bas, depuis le début du mois, les écoliers doivent se tester plusieurs fois par semaine. Même système en Autriche où 5 kits gratuits sont distribués à chaque habitant depuis un mois. Les autotests sont aussi autorisés et déployés en Allemagne. En France, vous l'avez compris, on est encore très loin.
On va encore patienter. Merci beaucoup Victor Dolande du service Société d'Europe 1. Le gouvernement qui dit vouloir tout faire pour aider les jeunes à passer le cap de cette crise sanitaire. Alors on sait qu'il y a notamment le plan de relance jeunes, mais un comité d'experts va plus loin et propose d'expérimenter un revenu de base.
Oui, c'est ce que préconise le comité d'experts chargé d'évaluer la stratégie anti-pauvreté du gouvernement. Son président n'est autre que l'ancien patron de Renault, Louis Schweitzer. Il demande d'expérimenter sans délai un revenu de base pour les 18-24 ans les plus démunis. Qu'il soit étudiant ou non, la mesure coûterait entre 5 et 7 milliards d'euros.
Le secteur de la culture continue lui aussi de souffrir beaucoup de cette crise et notamment les festivals qui annulent les uns après les autres, c'est l'hécatombe.
Oui, pas de festival de la bande dessinée à Angoulême et pas de festival des Eurockéennes de Belfort non plus début juillet. L'affiche était pourtant belle avec Massive Attack entre autres. Le directeur Jean-Paul Roland jette l'éponge.
Quand on a demandé aux festivaliers qu'est-ce qu'ils pensaient de ces mesures, notamment distanciées, on a bien vu que majoritairement, plus des deux tiers, en tout cas, refusaient de venir si c'était dans des conditions assises et distanciées, considérant que le festival n'est pas simplement un lieu de spectacle, mais un lieu d'interaction sociale. Et puis d'autre part, au moment de notre conseil d'administration, il a clairement été dit par nos administrateurs de ne pas sacrifier l'esprit du festival sur l'autel de la pandémie. Il fallait préférer en priorité assurer la survie de la structure plutôt que de se projeter tout de suite dans une forme de festival qui ne nous correspondait pas et puis qui, d'autre part, amenait une perte d'argent.
Jean-Paul Roland, le directeur du Festival des Eurockéennes de Belfort avec Angèle Châtelier.
Et l'instant, on apprend que les 24 heures du Mans moto qui étaient prévues les 17 et les 18 avril sont reportées sine die.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1. 3 personnes en garde à vue après une rixe mortelle à Pontoise.
Et puis le Racing Club de Toulon éliminé de la Coupe d'Europe sans jouer.
A tout de suite. 18h10, merci à vous d'écouter Europe 1, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre. Et à Pontoise, trois hommes sont en garde à vue ce soir après une rixe qui a fait deux morts.
Oui, au départ, il s'agit d'un vol de moto. Trois hommes ont voulu récupérer le deux roues, mais cela a dégénéré et tourné l'expédition punitive Guillaumier.
Oui, un affrontement sanglant en représailles à ce vol de moto commis quelques heures auparavant. Hier soir, donc, un trio décide de se rendre à Pontoise dans ce quartier des Hauts de Marcouville pour récupérer l'engin. Effectivement, sur place, ils ont repéré la moto volée, pilotée par un jeune homme, sur lequel ils ont délibérément foncé à bord de leur fourgon utilitaire. La violence du choc a provoqué de graves blessures au pilote de 21 ans qui a succombé dans la nuit. Après cette collision, un affrontement a éclaté avec des habitants de la cité et les agresseurs ont ouvert le feu au pistolet de petit calibre. Bilan, un mort, un homme de 35 ans. Dans la foulée, intervention de la police. Un premier suspect blessé est arrêté sur place. Un deuxième se rend au commissariat. Le troisième a été arrêté à l'hôpital. Ce sont des membres de la communauté des gens du voyage, confirme le procureur de Pontoise. Tous déjà connus de la police. Les deux plus jeunes ont 23-24 ans, le troisième a 57 ans. Ils sont en garde à vue pour meurtre, interrogés par les enquêteurs de l'antenne de police judiciaire de Cergy.
Précision signée Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. Merci Guillaume. À Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, les policiers marseillais ont démantelé un réseau de prostitution sur Internet qui exploitait au moins une douzaine de jeunes femmes. Cinq hommes ont été interpellés, trois dorment en prison, les deux autres sont placés sous contrôle judiciaire.
Aux États-Unis, la bataille du lobbying s'engage au Congrès pour empêcher Joe Biden de taxer davantage les entreprises.
Et oui, parce que le président américain veut faire passer leur impôt sur les bénéfices de 21 à 28%, condition sine qua non, dit-il, pour financer son plan de relance de 2000 milliards de dollars destinés, vous le savez, à rénover les infrastructures. Les multinationales font pression sur les sénateurs démocrates pour les convaincre de voter non avec les républicains.
L'économie américaine qui constate un net rebond des emplois en mars, près d'1 916 000, très exactement. Les plus optimistes y voient le présage d'une forte reprise économique au fur et à mesure que la vaccination va se poursuivre.
Et puis en sport aussi, la raison du Covid est toujours la plus forte. On apprenait tout à l'heure le report des 24 heures du Mans Moto. Et bien, le rugby club de Toulon vient lui aussi de l'apprendre à ses dépens.
Les Toulonnais devaient disputer leur huitième de finale de Coupe d'Europe ce soir contre le Leinster. Devaient, parce qu'en réalité, ils ne le joueront pas. Un cas positif dans leur rang les a ramenés à la maison plus tôt que prévu. Le match est annulé. L'aventure européenne va s'arrêter là. Les Varois ne se font plus trop d'illusions, Cyril de la Morinerie.
Oui, et le club de Toulon est très en colère ce soir. Sauf énorme surprise, il sera éliminé en effet de la Coupe d'Europe sur tapis vert. Je viens d'avoir son président, Bernard Lemaître, qui ne digère pas cette décision tardive. C'est aujourd'hui à 13h30, à 5h seulement du début du match, que les organisateurs ont annulé cette rencontre. Tout cela parce que, eh bien, un joueur de Toulon, vous l'avez dit, dont le poste est première ligne, a été testé positif mercredi. Celui-ci est resté à l'isolement en France. Le reste de l'équipe est arrivé hier à Dublin, persuadé que le match aura lieu. D'autant que de nouveaux tests pratiqués hier ont confirmé que les joueurs sur place étaient bien tous négatifs. Nous sommes traités comme des Kleenex, s'emporte ce soir sur Europe 1, Bernard Lemaître.
Colère, dégoût, oui, bien sûr, on est un peu écœuré. On est vraiment traité comme des Kleenex, presque. À la rigueur, on aurait pu admettre qu'à la suite du cas positif de mercredi dernier, il nous a dit non, là, il y a un risque potentiel qui est trop élevé, le match est annulé, vous ne déplacez pas. Mais jusqu'au dernier moment, on est dans la certitude qu'on va jouer, quoi. On est les mauvais garçons, quoi.
Pourtant, une alternative a été proposée au club, jouer ce match dimanche à condition que l'ensemble des premières lignes, soit 6 joueurs au total, soient remplacés. Refus catégorique de Toulon. Sportivement, c'est impossible, affirment ses dirigeants. Une mésaventure de plus pour le club varois qui avait refusé fin décembre d'affronter la province galloise des Scarlets, frappés alors de plein fouet par le coronavirus. Ce soir, les Toulonnais menacent même de boycotter la Coupe d'Europe la saison prochaine. Une compétition qui ne les motive plus.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Eh bien, c'était le journal de Christophe Lamarre. Merci Christophe, on vous retrouve tout à l'heure. La météo, Anissa Haddadi, bonne nouvelle quand même, le soleil sera bien présent demain.
Ah, j'ai commencé par la bonne nouvelle.
Bah oui.
Quand même,
merci,
on va la retenir.
Merci à vous.
Cette nouvelle, un ciel lumineux effectivement avec du soleil demain samedi. À part quelques exceptions, allez, sur les côtes de la Manche, des Hauts-de-France à la Bretagne, en passant par la Normandie et le Cotentin, là on aura un ciel un petit peu plus couvert en début de journée, plus lumineux dans l'après-midi. Dans le Pays Basque et la région toulousaine, les nuages bas dominent tout au long de la journée. Il y a une espèce de grisaille comme ça qui va durer tout au long de la journée. Au
ça, bord c'est le début des mauvaises nouvelles, si je comprends bien.
Au bord de la Méditerranée, toujours des entrées maritimes. Partout ailleurs, le temps reste ensoleillé. Ah. C'est le vent qui va se lever demain. Vous savez qu'on a déjà la bise qui souffle sur le nord-ouest depuis quelques jours. Là, elle va s'engouffrer sur toute la moitié nord. Donc toutes les régions situées au nord de la Loire demain vont avoir ce vent du nord froid qui vient accentuer cette sensation de froid. Et puis dans le sud, le Mistral et la Tramontane qui se lèvent et qui soufflent jusqu'à 80 km/h. La baisse des températures continue avec 1 à 6 degrés demain matin sur la moitié nord, 5 à 11 dans le sud et demain après-midi c'est très froid, enfin très froid par rapport à ce qu'on a connu quoi. 9 à Dunkerque, 12 à Lille, 13 à Nancy, 15 degrés à Paris et Poitiers, 18 à Lyon, 19 à Bordeaux et Marseille, 22 degrés à Albi et 24 à Montpellier. À 18h30, je vous dirai s'il est normal ou pas qu'on ait de la neige début avril.
Bah oui, on y compte bien. Merci Anissa. On se retrouve tout à l'heure.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, mon invité nous prendra par la main pour nous faire découvrir la France. La France, ce pays que l'on connaît si bien, mais que l'on apprécie si mal. À tout de suite. C'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et je reçois ce soir un homme qui va nous rappeler combien, malgré les épreuves que nous subissons en ce moment, combien nous vivons dans un beau pays. Bonsoir Frédéric Armel.
Bonsoir Isabelle.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous publiez chez Flammarion un petit livre intitulé « C'est ça la France ». Alors vous vivez en Espagne depuis près de 30 ans, vous êtes journaliste, expatrié à Madrid, exilé volontaire, c'est donc un choix hein, que vous ne reniez pas, mais bah, il arrive que la France vous manque, une certaine idée de la France en tout cas. Alors vous revenez régulièrement pour votre travail, c'est pas très loin Madrid, mais vous expliquez qu'en mars 2020, juste avant le premier confinement, vous êtes en France, vous devez rentrer en Espagne, vous ne savez pas quand vous pourrez revenir. Et là, bah, vous avez comme une sorte de déclic, une bouffée d'amour pour ce pays qui vous a vu grandir. Il y a plein d'images qui se bousculent et vous décidez de les coucher sur le papier, c'est ça?
Oui, alors c'était une idée qui existait déjà dans ma tête et dans la tête de mon éditeur chez Flammarion. Mais c'est vrai que le premier confinement, ce n'est pas la première fois que je me sentais coupable de quitter mon pays. Mais c'est sûrement la fois où ça a été le plus violent. J'ai eu l'impression d'être un traître à ma patrie. Voilà, c'est parce qu'on sentait le danger. Le lendemain, le président Emmanuel Macron allait annoncer le confinement général. Moi, je prenais l'un des derniers avions d'Air France pour Madrid. Et double sentiment, la peine, parce que la pandémie arrivait, et puis la culpabilité. Et c'est une culpabilité que ressentent beaucoup de Français d'étrangers. Voilà, quand il se passe un événement grave dans notre pays, par exemple les attentats ou Notre-Dame, dont je parle dans le livre, on a cette double peine, la douleur des Français de France et la culpabilité des Français de l'étranger de ne pas être aux côtés de nos compatriotes dans ces moments difficiles.
Alors, j'aime beaucoup votre préambule. Donnez-moi la main, je vous emmène dans votre pays. Je crois qu'on avait vraiment besoin de quelqu'un comme vous en ce moment et c'est pour ça aussi qu'on est content de vous avoir ce soir, Frédéric Armel. Pour nous qui sommes confinés ou en tout cas très restreints dans nos déplacements, finalement, vous nous dites, eh bien, le bonheur, l'évasion, la poésie, ils sont au bout de la rue. Par exemple, à la boulangerie.
Ah, mais ça, c'est quelque chose. Je vais encore parler des Français de l'étranger. Il y a actuellement 2,5 millions de Français qui résident en dehors de nos frontières. Puis vous calculez tous les centaines de milliers, voire les millions qui ont fait Erasmus, par exemple, hein, qui sont partis 7, 8, 9 mois. Et tous vont vous dire que la chose qui manque le plus à un Français quand il est loin de chez lui, c'est le pain à la française, c'est la baguette, c'est le boulanger du coin de la rue, parce que nul pays au monde ne fait aussi bien le pain que la France. Et puis c'est symbolique aussi, nous sommes un grand pays d'agriculture. Nous sommes un pays autosuffisant d'un point de vue alimentaire, tant en qualité qu'en quantité qu'en variété. On l'oublie de le dire. D'ailleurs, pendant le premier confinement, les frontières étaient fermées et on n'a manqué de rien. Et ça, moi qui suis un petit-fils de paysan, qui suis issu d'un petit village du Pas-de-Calais, des plaines d'Artois, il était important pour moi de rappeler que derrière la baguette, il y a cette puissance agricole française qui sont nos racines aussi.
Alors il y a la baguette et puis on peut aussi voyager hein, dans une boulangerie-pâtisserie en tout cas.
Oui, c'est vrai que je me suis un peu amusé à regarder les pâtisseries. Et on voit qu'il y a le Kouglof alsacien, qu'il y a le Paris-Brest qui reste à quai, qu'il y a le millefeuille à la vanille de Madagascar. Ouais. Voilà. En fait, chaque pâtisserie qu'on trouve, pâtisserie assez classique, hein, pas les trucs élaborés, en fait rappelle un pays. Et voilà, il y a plein de saveurs. Parce que la France, est, contrairement à ce qu'on ose dire, la France est un pays qui accueille beaucoup.
Ouais.
La France est un pays qui prend ce qu'il y a de mieux des étrangers. Et qui a intégré beaucoup de choses culturelles.
Vous rappelez d'ailleurs que le couscous est l'un des plats préférés des Français, par exemple.
Il y a des sondages qui paraissent depuis une vingtaine d'années, et le couscous est toujours, avec la blanquette de veau, sur le podium des plats préférés des Français. C'est un plat kabyle, au départ. Et c'est vrai que nous avons intégré le couscous comme un plat français, parce que quand on est Français, si c'est bon, si c'est beau, si c'est bien, si ça a du talent, on l'accueille et on l'intègre, on l'assimile. Et ça, je pense que le couscous parle beaucoup plus que de nourriture.
C'est possible, ouais. Et vous y pensez avec la même tendresse que vous pensez au petit plat de votre grand-mère, par exemple. Alors, dans les petits bonheurs du quotidien typiquement français, vous parlez aussi d'aller acheter le journal local, celui dans lequel on a peut-être été en photo quand on était petit, parce que son club avait remporté une compétition de judo, par exemple. Vous parlez aussi du calendrier des postes que l'on choisit avec soin, avec son facteur. On lui demande son avis. Est-ce que je prends les chats? Est-ce que je prends les chevaux cette année? On a, c'est vrai, beaucoup d'affection pour ce côté terroir, proximité, comment l'expliquez-vous? Parce que ça nous rappelle notre enfance?
Et parce que ça définit notre identité, je pense. Je pense que ce livre est aussi un petit catalogue de repères de l'identité française. On a tous, quand on était petit, avec nos grands-parents, vu le facteur et choisi avec notre frère, notre sœur, notre cousin, la photo
qui va trôner sur la cheminée,
voilà,
pendant toute l'année.
Ouais. Voilà, ou dans la cuisine. Enfin, on a tous vécu ces choses-là. Et certaines personnes me disent « Ouais, alors est-ce que tu n'es pas un peu nostalgique ?» Je dis « Oui, c'est une nostalgie, mais c'est une nostalgie pas du passé, c'est une nostalgie du présent. » Parce que toutes les choses dont je parle existent réellement aujourd'hui en France. Sauf que les Français de France, parce qu'ils ont le nez dans le guidon, ne voient plus, ne savent peut-être plus apprécier ces petites choses que nous, les Français de l'étranger, on sait apprécier, parce qu'elles nous manquent surtout.
Ouais. Une France du terroir, une France qui a des traditions bien à elle. Hein. Le bal du 14 juillet, par exemple, ça vous en parle aussi dans votre livre.
Moi, ça aussi, ça peut paraître anodin, mais le bal du 14 juillet, je dis que c'est les noces de la France avec la République et que tout le monde est invité au bal du 14 juillet. Il n'y a pas de carré VIP dans la caserne des pompiers.
Vous dites c'est s'asseoir à la table de la France où trône l'abolition du privilège.
Vraiment. Ouais. Et moi, j'ai plein de souvenirs de bal du 14 juillet dans mon... Sûrement un de mes premiers baisers, quand j'étais enfant dans mon petit village, et dans les casernes de pompiers, et tout ça. Et toutes ces choses sont là, et il faut les regarder, les apprécier, et de se dire que c'est pas si mal la France.
Vous parlez aussi du Tour de France, dans le genre communion populaire, il n'y a pas mieux. La pétanque aussi, il paraît que partout dans le monde, les expatriés, ils se retrouvent autour d'une partie de pétanque, alors qu'ils ne jouaient pas forcément d'ailleurs quand ils étaient en France. Hein.
Ça, j'ai pu constater ça à Madrid, je me suis inscrit à un club de pétanque, et en faisant des recherches, et puis comme je suis très présent sur Twitter, quand j'ai parlé de ça, beaucoup de gens m'ont dit, il y a même un lecteur de ce livre déjà, qui habite à Singapour, il dit « Oui, nous jouons à la pétanque à Singapour !» Donc dans le monde entier, parce que ça fait partie de cette identité française, de ces petits jeux qui rassemblent en fait, parce que nous sommes dans une période quand même de séparatisme, où beaucoup de gens essayent de diviser les Français, et moi je rappelle ces choses qui nous unissent. Et la pétanque fait partie de ces petits jeux, de ces petits moments où les Français s'unissent, parce que ça leur rappelle leur pays, parce que on s'engueule et puis on se réconcilie, puis on va boire un coup derrière. Quoi.
Frédéric Hermel, vous évoquez également le concept de laïcité. On en parle pas mal en ce moment. Concept, écrivez-vous, qu'il est quasiment impossible de faire entendre à quiconque qui n'est pas né ou qui n'a pas vécu au moins une paire de décennies sur la terre de France.
C'est peine perdue. Moi, j'habite en Espagne, un pays où, quand on se déclare laïque, on est tueur de curés, parce que ça rappelle la guerre civile. Je parle d'un exemple à Jérusalem, avec un Américain qui, dès qu'il a entendu mon accent français en anglais... s'est jeté sur moi, c'est une image,
oui.
Mais en disant amicalement, mais très agressif. Ouais. Ah oui, dans ton pays, on ne peut pas s'exprimer, nanana. Et j'ai quand même expliqué ce qu'était la cité à la française. Alors ça l'a un peu...
Expliquez-nous ce que vous lui avez dit, parce que c'est intéressant.
Ben, je lui ai dit en fait que... Alors moi je suis catholique pratiquant, j'étais avec des amis israéliens, et lui c'était un juif américain, et... Il me dit oui, le voile, la kippa, pourquoi s'interdit dans ton pays? Mais il était vraiment très agressif. Et je lui dis, mais en fait, il n'y a pas de religion d'État en France. Il n'y a même pas de religion du tout organisée par l'État. C'est simplement que toi, en tant que juif, en France, tu n'aurais. En France, qui est quand même un pays d'origine chrétienne, tu n'aurais pas plus de droits ou pas moins de droits, pas plus de devoirs ou moins de devoirs qu'un catholique dans un pays catholique. La laïcité à la française, c'est le droit de tout le monde d'avoir sa religion, de la pratiquer. Ou de ne pas en avoir. C'est de l'intime, mais ça ne se mêle pas du public. Enfin, c'est un concept très compliqué à expliquer.
Et très français. Et juste une dernière chose, est-ce qu'il y a des choses, en revanche, qui ne vous manquent pas de la France?
Ah, c'est une bonne question. Des choses qui ne me manquent pas de la France?
Alors, je ne sais pas, le côté râleur...
Il y a un truc, c'est les papiers à remplir. C'est vrai que c'est un petit peu plus simple
en Espagne. La lourdeur administrative.
Ouais, voilà. Alors d'un côté, aucun pays au monde ne protège ses citoyens et ses résidents comme la France. Hein. On l'a vu pendant la période de la pandémie, toutes les aides.
Et on le voit encore quotidiennement.
On voit encore, en Espagne, à Madrid, les restos restent ouverts parce qu'il n'y a pas d'aide. Hein, donc c'est aussi un constat d'échec de laisser ouvert comme ça se passe en Espagne. Non, je pense que la lourdeur administrative est peut-être ce qui manque le moins aux Français de l'étranger. mais c'est quand même bien compensé par toute la protection que nous offre l'État.
Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric Hermel. Ça nous a fait beaucoup de bien de vous écouter ce soir. Et je conseille à nos auditeurs la lecture de votre livre « C'est ça, la France », paru chez Flammarion. Vous savez que sur Europe 1, on aime bien regarder, écouter le monde changer, mais on n'oublie pas pour autant nos racines, notre terroir, nos traditions.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et dans un instant, ce sera le rappel des titres de l'actualité. Et puis les grandes voix du vendredi. L'opposition n'est pas contente du tout de ne pas avoir été consultée sur les nouvelles mesures sanitaires. Elle l'a fait savoir hier. Emmanuel Macron a-t-il raison de jouer cavalier seul ? 18h30, l'heure du rappel des titres sur Europe 1 avec vous, Christophe Lamarre.
Forte affluence dans les gares parisiennes à la veille du week-end de Pâques. Journée orange sur les routes demain et sur tout le territoire. Les Français qui le peuvent cherchent à quitter les grandes villes pour se mettre au vert avant le confinement. Se déplacer, oui. Se regrouper, non. Tolérance jusqu'au 6 avril pour les Français qui souhaitent partir. En revanche, ce sera verbalisation systématique pour les regroupements de plus de 6 personnes et les fêtes dans les lieux privés, comme les appartements ou les lieux publics. À Lyon, le préfet décide la fermeture des quais de Saône pour empêcher les regroupements. Les assistantes maternelles obtiennent gain de cause. Elles pourront continuer de garder les enfants comme lors du premier confinement. Et puis les annulations de festivals ou de manifestations se succèdent. Pas de festival de la bande dessinée d'Angoulême, pas d'Eurockéenne de Belfort en juillet. Et on apprend que les 24 heures du Mans Moto prévues les 17 et 18 avril sont reportées si dédiées.
Eh bien merci Christophe Lamarre. L'info revient avec vous à 19h avec un nouveau journal complet. Anissa Haddadi, les températures baissent encore demain.
Oui, avec seulement 1 à 5 degrés dans le nord, nous aurons 5 degrés à Paris, 6 à 12 sur la moitié sud. Dans l'après-midi, le froid va gagner du terrain. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons eu froid seulement sur les régions au nord de la Seine. Demain, ça va descendre doucement avec seulement 9 degrés à Dunkerque, 11 à Caen et Belfort, 13 degrés à Strasbourg, 15 à Paris, 17 à Nice et à Vannes, 19 à Marseille et Bordeaux, 22 à Carcassonne et 24 à la maximale prévue pour Montpellier. Dans le ciel, ça se couvre des Hauts-de-France à la Bretagne en passant par le Cotentin. En Aquitaine et région toulousaine, là aussi, nous aurons pas mal de nuages bas. Partout ailleurs, je vous rassure, le soleil brille, domine encore dans le froid avec ce vent glacial, cette bise qui souffle sur toute la moitié nord demain et dans le sud, Mistral et Tramontane. Nous avons un épisode neigeux en plaine qui arrive dans la nuit de lundi à mardi.
Ça se confirme ça.
Et jusqu'à mercredi. Oh là là. Ça se confirme. Les régions concernées par la neige en plaine sont les régions des Hauts-de-France, de la Normandie et de l'Île-de-France. Je vous expliquerai pourquoi et surtout si c'est normal ou pas.
Bon, écoutez, on vous attend avec,
à tout à l'heure.
Avec impatience. On fera un nouveau point tout à l'heure avec vous à 19h. Merci Anissa.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Et il est l'heure sur Europe 1 d'ouvrir notre débat des grandes voix du vendredi avec ce soir à mes côtés l'essayiste Barbara Lefebvre, Éric Scholl, directeur de la rédaction de l'Express et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest-France. Bonsoir, merci à tous les trois de m'accompagner ce soir.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors hier, le Premier ministre Jean Castex a détaillé à l'Assemblée et au Sénat les nouvelles mesures décidées la veille par Emmanuel Macron. Deux débats suivis d'un vote symbolique, vote auquel les oppositions, toutes tendances confondues, n'ont pas souhaité prendre part. Boycott de la part du PS, du PC, de la France Insoumise, des Républicains. Tous dénoncent un mépris pour le Parlement, à l'image, écoutez, de Jean-Luc Mélenchon.
Le vote n'aura aucune conséquence, car même si nous venions à voter non, tous, unis pour une fois, cela ne changerait rien. La responsabilité du gouvernement n'est pas engagée par ce vote.
Les grandes voix, on est loin de l'Union nationale, de la première vague. Ça y est, Barbara Lefebvre, la politique a repris le dessus sur la crise.
La politique avait repris le dessus très vite. Je pense même avant même le déconfinement, la politique avait repris le dessus. D'autant que sur l'année qui s'est écoulée, que dans l'urgence de mars-avril de l'année dernière, on n'ait pu accepter la mise entre parenthèses de la démocratie, du jeu d'opposition qui déjà est réduite à la portion congrue compte tenu de la majorité écrasante obtenue par la République En Marche et ses alliés à l'Assemblée. Là, on a vraiment été dans une série de mois où la démocratie en France n'a quasiment pas existé, puisque, d'une certaine façon, le roi décide seul en son conseil. Alors, le conseil du roi ne se tient pas à Versailles, il se tient à l'Élysée. Ça s'appelle le conseil de défense dans les sous-sols, ou enfin maintenant il n'est plus dans les sous-sols. Mais donc, on voit bien effectivement que l'opposition dans son ensemble, au début, c'était plutôt uniquement la France Insoumise et le Rassemblement National qui soulignaient ce déficit de démocratie. On voit aujourd'hui que toute la classe politique, y compris des membres assez proches de la majorité, qui le disent du bout des lèvres, mais qui quand même trouvent que ça commence à être un petit peu trop visible, un petit peu trop arrogant. Et là, effectivement, on se demande pourquoi cette déclaration, pourquoi ce vote devant l'Assemblée. À la limite, un discours de M. Castex aurait suffi, ou bien rien, c'était aussi bien. Mais là, c'est carrément une gifle qui est asséné aux parlementaires.
Ouais, est-ce que vous faites la même analyse, Éric Scholz ? Ça pose une question de fond, hein, ce débat. Emmanuel Macron écoute-t-il suffisamment l'opposition ? Est-ce qu'il n'aurait pas été normal et sain d'organiser un débat avant, sur ces nouvelles mesures, avant ce vote ?
On sait déjà, même en dehors même de cette crise sanitaire, que les pouvoirs du Parlement ne sont pas énormes. Mais là, pas depuis le début de cette crise, le Parlement, finalement, il n'a pas eu le droit au chapitre à aucun moment dans cette crise sanitaire. Donc, d'une certaine façon, quand le gouvernement, l'exécutif a tenté de lui faire partager en fait la responsabilité de ses décisions en organisant ce vote, eh bien, en fait, à partir du moment où l'opposition n'avait pas été consultée auparavant, bah, elle a refusé de se lier les mains. Donc, c'est assez logique, cette réaction. Je veux dire, ce n'est finalement que la conclusion de ce qui s'est passé au cours des mois précédents. Une des décisions qui ont été très verticales, des décisions qui ont été rassemblées dans cette instance, le Conseil de défense, et c'est tout. Donc, c'est très dommage que depuis le début, en tout cas, le Parlement ait été mis de côté à ce point-là. C'est pas d'ailleurs le seul. On a vu le débat qu'il y a pu avoir avec les élus locaux, avec les que ce soit les régions, que ce soit les villes, mais finalement qui ont dû être à un moment ou à un autre associés parce qu'elles étaient des acteurs directs de cette crise. Le Parlement, ça a été plus compliqué et vraiment on peut regretter qu'on soit arrivé à ce non-vote ou ce non-vote d'hier. Oui. C'est la preuve que là-dessus, on a un déficit démocratique en France, c'est évident.
Oui, parce que là, on a vraiment senti une vraie exaspération hier. On a entendu dans l'hémicycle déni de démocratie, mascarade, simulacre. Ça a même fait sortir Jean Castex de ses gonds, c'est rare. Ils ont raison, ceux qui reprochent à Emmanuel Macron l'exercice solitaire du pouvoir et le centralisme, Stéphane Vernet ?
Alors oui et non, c'est-à-dire que en fait, sa marque de fabrique depuis le début de ce quinquennat, c'est qu'il y a quand même une relative défiance, une forte défiance du chef de l'État vis-à-vis de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Et tout ce qui ne procède pas de lui-même, je m'explique, dans la philosophie du ni droite ni gauche, vous avez quand même une majorité présidentielle, Macron, ses proches, qui ont pris le pouvoir, avec dans l'idée que leur prédécesseur avait failli et qu'il fallait faire autrement. Et la problématique de ce nouveau quinquennat, de ce nouveau pouvoir, c'est qu'il n'organise pas de dialogue informel avec les oppositions. Je dis bien du dialogue informel, parce que depuis 5 ans, et à plus forte raison, dans cette crise sanitaire, vous avez quand même une tentative d'organisation de dialogue, mais un dialogue qui n'en est pas un. Par
c'est
exemple,
quoi un dialogue informel alors ?
Alors, un dialogue informel, c'est la politique des visiteurs du soir. C'est vous recevez à l'Élysée, à Matignon, vous entretenez en fait des relations suivies, qui ne sont pas forcément officielles, avec des gens qui ne pensent pas comme vous, pour les consulter, pour discuter, dans un cadre qui n'est pas forcément un cadre public. Ce que faisait très bien Jacques Chirac, par exemple. Ce que ne sait pas faire Emmanuel Macron, ce qu'il ne fait pas du tout. Il n'y a pas de contact informel. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que vous avez des instances qui ont été mises en place. Le Conseil de défense sanitaire, dans le principe, ce n'est pas un problème, si vous voulez. Le Conseil de défense, il existait avant la crise de Covid. Qu'on mette en place ce type de structure d'exception parce qu'on est dans une situation d'urgence, une situation exceptionnelle, c'est pas fondamentalement, ce n'est pas un problème. Là où ça devient un problème, c'est que ça dure. Ça dure beaucoup trop longtemps, comme la situation, comme l'état d'urgence. Au bout d'un an, ça pose un vrai souci. Vous avez une volonté quand même d'améliorer le dialogue, notamment au niveau de Matignon. Vous avez le Premier ministre qui a créé récemment un comité de liaison avec le Parlement, avec l'Assemblée, avec le Sénat, qui a un moyen de réunir les parlementaires qui comptent, les chefs de groupe, dans des formats en visio pour avoir des échanges. Sauf que ces échanges, ils ne se font encore une fois que dans l'urgence, c'est-à-dire la veille ouais. de l'annonce des décisions.
C'est ça aussi qui est reproché.
Et du coup, vous avez une opposition.
On les met devant le fait accompli.
Bah, qui dit, on nous associe à rien. On nous informe au dernier moment. Et notre marge de manœuvre pour peser dans les décisions, elle est très faible. Et j'ai une nouvelle pour vous, c'est que ça ne va pas s'arranger. Parce que plus on approche des échéances électorales, et notamment de la présidentielle, de toute façon, plus il n'y aura pas de dialogue, ou plus ça va se tendre. Parce que chacun va se mettre dans des postures qui sont aussi des postures politiciennes. Et donc, oui, l'Union nationale, malgré la gravité de la situation, c'est terminé, il n'y en aura pas.
Bon, je vous propose qu'on poursuive ce débat dans un tout petit instant. A tout de suite, les grandes voix. 18h41, on poursuit notre débat des grandes voix sur Europe 1. On revient sur le boycott hier par l'opposition au Sénat et à l'Assemblée du vote sur les nouvelles mesures de restriction sanitaire. Ça a été assez chaud hein, hier. Toujours à mes côtés, l'essayiste Barbara Lefebvre, Éric Scholz, directeur de la rédaction de l'Express, et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest-France. Barbara Lefebvre, on a l'impression qu'Emmanuel Macron volontairement ne joue pas le jeu de l'Union nationale.
Non, il ne joue pas le jeu de l'Union nationale, mais l'a-t-il jamais vraiment joué ? Il l'a joué à un moment donné dans ce simulacre du grand débat après la crise des Gilets jaunes, parce que là, il a essayé de retisser un lien, effectivement, y compris de retisser un lien avec les élus de terrain et les élus d'opposition, mais c'était effectivement un simulacre. Et pour revenir sur ce qui était dit tout à l'heure, je rappellerai que pendant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, Clémenceau, lorsqu'il a été à la charge du pays, il y avait la fameuse Union sacrée, mais enfin, elle n'a pas duré beaucoup, et les débats à l'Assemblée, à la Chambre des députés, étaient terribles. Et la démocratie était très vivifiante, y compris lors de cette guerre qui était quand même autre chose que la crise du coronavirus. Donc, cette espèce de prétexte qu'il y a une crise unique, incroyable, et que pour cela, on va mettre la démocratie entre parenthèses, ça pose problème. Le Conseil de défense, François Hollande l'a utilisé aussi au moment de la crise terroriste. Pour autant, il ne s'est pas enferré en décidant que, tiens, voilà une nouvelle instance dans laquelle je vais pouvoir prendre toutes les décisions. Non, il a su gérer ce Conseil de défense sur les questions de terrorisme. Et puis ensuite, voilà, il est passé à autre chose et il est revenu dans un cycle démocratique normal. Là, on voit bien qu'il y a un biais chez Emmanuel Macron. Il aime l'exercice solitaire du pouvoir. Excusez-moi, mais on se rappelle de son entrée dans la cour du Louvre au son de l'hymne européen. On sentait déjà qu'il y avait cette grande envie d'être le monarque républicain.
Bon, Éric Scholl, consulter l'opposition, c'est vrai que ça aurait permis aussi de rassurer l'opinion publique, les Français qui auraient constaté l'unanimité de la classe politique sur ce sujet tellement important. Du coup, ça alimente l'incompréhension, non ?
Oui, et c'est d'autant plus... Il y a un contraste avec les mots utilisés par le président de la République pendant son allocution. Il a essayé d'utiliser beaucoup le « nous » pour essayer d'inclure l'ensemble de la population. Il a parlé d'unité, mais on voit bien, au fond, c'était... la lecture, en réalité, c'est que depuis des mois, il y a un exercice qui est effectivement plutôt solitaire. Et il y a eu plusieurs revirements dans sa stratégie, même s'il ne l'admet pas. Et c'est pour cela qu'il y a une incompréhension. Et c'est bien pour cela qu'à un moment, il doit y avoir du débat. Et après tout, ces débats, ils ont existé dans le passé, mais ils existent aussi à l'étranger. Alors, ça, c'est pas toujours facile. Mais Angela Merkel, avant de prendre des décisions, elle passe des heures avec les présidents des Länder en Allemagne. Et elle était même capable de revenir sur ses propres décisions. On l'a vu tout récemment à la Chambre des communes. En Grande-Bretagne, les débats continuent, ont toujours continué. D'ailleurs, que c'était, vous faisiez allusion à la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les débats sous Churchill étaient en permanence à la Chambre des communes. Eh bien, encore aujourd'hui, c'est le cas. Donc, si vous voulez, la démocratie, elle doit pouvoir continuer à exister. Et sans doute, depuis un an, on a, je crois, un exercice démocratique et déficitaire en France, ça paraît évident. Et alors, on n'a pas eu non plus d'élection. La première élection pendant cette crise du Covid, cette élection municipale, a été très compliquée avec une forte abstention. Et on se rappelle déjà, entre le premier et le deuxième tour, que ça a été assez compliqué. Aujourd'hui, on est toujours dans l'attente des prochaines élections qui ont été reportées à plusieurs reprises, les élections régionales.
Et ça s'annonce compliqué aussi.
Et ça s'annonce aussi compliqué. Donc, si vous voulez, tout ça participe à cette idée d'un déficit démocratique, ou en tout cas d'explication même démocratique.
Alors quand même, Jean Castex, il a essayé hier de faire cet exercice d'explication. Enfin, il a rétorqué aux différentes attaques. À ma place, vous auriez fait pareil. En même temps, l'opposition, elle ne propose pas grand-chose non plus, Stéphane Vernet. Hein.
Oui, ça fait partie du discours. Et c'est quelque chose c'est quand même un message qui passe auprès de l'opinion, parce que on voit que dans les courbes de popularité, vous avez une situation qui est quand même très très problématique. Je ne vais pas vous faire un dessin, et vous avez un chef de l'État et un premier ministre qui restent quand même relativement haut dans les sondages d'opinion. Pourquoi ? Parce que je pense qu'effectivement, vous avez une majorité de Français qui ne sont pas forcément d'accord avec la politique conduite, mais qui se disent, de toute façon, les autres n'auraient pas fait mieux.
Oui.
Bon, après, une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit, ça ne résout pas votre problème. Moi, je pense qu'effectivement, dans cette histoire, il y a un déficit de débat et de démocratique. Vous l'avez très bien expliqué à l'instant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on organise un débat public, mais qui se fait a posteriori à chaque fois. C'est-à-dire, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les oppositions, les grands élus sont informés la veille, mais c'est trop tard, il n'y a pas de marge pour discuter des mesures à prendre. Ou alors, le débat public, il a lieu le lendemain de l'allocution du président de la République. Oui, c'est un problème. Et effectivement, le fait d'utiliser de manière récurrente le Conseil de défense, qu'on l'ait fait au début, encore une fois, je pense que c'est normal et que c'était tout à fait justifié, mais que ça se soit instauré comme ça et que ça dure depuis plus d'un an, on est dans un fonctionnement qui est effectivement dans un fonctionnement anormal et qui n'est pas rassurant, parce qu'on aurait besoin de sentir
une cohésion, une détermination, un ensemble, un bloc en fait de la part des gens qui nous dirigent.
Oui, mais sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que l'opposition ne propose pas grand-chose, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il veut mettre en place une société en roulement. Lui-même, il a un petit peu de mal à expliquer de quoi il s'agit. Les Républicains veulent confier la crise au ministère de l'Intérieur, construire des hôpitaux éphémères. Le PS veut un conseil sanitaire ouvert aux oppositions. Le RN veut la réouverture des petits commerces avec un protocole sanitaire. Europe Écologie Les Verts veut sanctionner les entreprises qui n'appliquent pas le télétravail. Alors pourquoi pas, il y a sans doute du bon hein, dans certaines de ces propositions. À minima, le gouvernement pourrait faire semblant de les écouter, Barbara
Lefebvre. Bien sûr, mais c'est pourquoi moi je ne pense pas que les oppositions ne sont pas force de proposition. Moi, depuis le déconfinement, on ne cesse d'entendre toutes sortes de solutions, d'idées qui surgissent de partout. Parfois, c'est un maire, la maire de Paris a eu des idées, le maire de Grenoble a des idées, ensuite c'est Madame Pécresse, ensuite, alors il y a effectivement ensuite des jeux politiques, mais je trouve qu'au contraire, on a une abondance de propositions qui émanent de gens qui ne sont pas au gouvernement et on a de l'autre côté un total refus d'écouter de la part du gouvernement, puisqu'à chaque fois qu'il y a M. Attal, M. Beaune, M. Macron, M. Castex qui s'expriment, c'est toujours fin de non-recevoir. Donc effectivement, on ne peut pas pour autant dire que les oppositions n'ont pas essayé de mettre des choses sur la table. En l'occurrence, il n'y a pas de table. La seule table qui existe, c'est celle du Conseil de défense et l'opposition n'y a pas accès. Donc effectivement, eh bien, ça peut donner le sentiment d'une cacophonie, mais je ne pense pas que ça donne le sentiment d'une cacophonie. La réalité, c'est l'expression d'une opposition qu'on ne veut pas entendre. Et tout cela, à un moment donné, ça se paye. Et ça pourrait se payer en 2022, pas seulement par l'échec d'Emmanuel Macron ou même sa impossibilité de se représenter, mais ça pourrait être même des tremblements démocratiques suite effectivement à des moments où on aura tellement restreint le débat démocratique qu'à un moment donné, ça pourrait exploser dans des situations et des proportions qu'on n'imagine pas.
Bon, en tout cas, à propos de l'opposition, je vous propose qu'on se retrouve dans un tout petit instant. On va s'intéresser au Parti communiste. Tiens, où est-ce qu'il en reste ? À tout de suite. 18h50, c'est la suite de votre débat des grandes voix du vendredi, toujours avec Éric Scholl, direction de la rédaction de l'Express, Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de West France et l'essayiste Barbara Lefebvre. Et si le Parti communiste était en train de jouer sa survie ? On en débat avec vous ce soir après cette lettre adressée par 200 cadres et militants qui s'opposent à la stratégie de leur secrétaire national, Fabien Roussel, qui envisage de se présenter à la présidentielle.
J'aspire à ce qu'il y ait un président de la République qui soit du côté des salariés, du monde du travail. Je pense qu'un candidat communiste à l'élection présidentielle peut contribuer à cela. Je vais proposer ma candidature dans le cadre de ce débat.
Alors du côté de Fabien Roussel, manifestement c'est clair, sauf que quand on lit la fameuse lettre de cadre et de militant, il y a clairement deux lignes hein, aujourd'hui au Parti communiste. On y va seul ou on joue la carte du rassemblement. Deux lignes irréconciliables. Est-ce que le parti est au bord de l'implosion, Éric Scholl ?
En fait, en réalité, il a déjà implosé. Donc, le Parti communiste a implosé depuis très longtemps. Donc, c'est presque étonnant qu'il y ait encore d'ailleurs presque 200 cadres et militants. Quand vous regardez à quel point ce parti, qui a été une force politique très importante jusqu'au début des années 80, aujourd'hui a totalement disparu de la circulation. Il représente... La dernière fois qu'il y a eu un candidat communiste à l'élection présidentielle, c'est en 2007. Donc on comprend bien tout le pari.
Marie-Georges Buffet.
Marie-Georges Buffet.
93% voilà. Des voix. Hein, c'est le pire score enregistré.
Aux européennes, ouais. Le candidat aux européennes en 2019, il a fait à peine 2,5%. Donc vous voyez, en fait, ce parti n'a plus du tout de force. Il a perdu tout ce qu'il pouvait... Tout, à la fois, c'est son électorat, il a perdu ce qu'il pouvait représenter, c'est-à-dire toute la confiance, tout ce vote ouvrier. Le vote ouvrier a déserté complètement le Parti communiste, il est parti au Rassemblement national. Donc si vous voulez, le Parti communiste, qu'est-ce qu'a fait Mélenchon ? Il a fait une OPA là-dessus. Il a fait une OPA et Mélenchon, il vient d'où ? Du trotskisme. Donc en plus, c'est deux gauches qui, de toute façon, dès le départ, étaient irréconciliables. Et Mélenchon fait une OPA sur tout ce qui peut, tout ce qui est à gauche, qui peut diviser, enfin, tout le communautarisme à gauche. C'est ça qui est en train d'essayer de faire Mélenchon. Donc oui, il y a un côté totalement irréconciliable. Je ne crois pas, on comprend bien la volonté, Fabien Roussel, de se dire si on peut exister, c'est en ayant à nouveau un candidat, ce qu'on n'a pas fait depuis 2007. Donc en ce sens-là, c'est peut-être sa dernière possibilité, mais au fond, pourquoi faire ? Pour quel programme ? Parti communiste n'a plus rien à voir avec ce qu'il a pu être à un moment. Vous savez, à un moment, il y avait des communes, il y avait des milliers et des milliers de communes en France. Oui. Il y avait de l'argent, des finances, il y avait des soutiens, il y avait des militants. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de militants.
Oui, Barbara Lefebvre, c'est troublant de penser que le Parti communiste, premier parti de France de l'après-guerre, joue aujourd'hui sa survie. Hein. C'est ce Éric Scholl. Hein.
D'autant plus que le Parti communiste s'est fait harakiri en 2009, quand Marie-Georges Buffet a décidé de se rallier au Front de Gauche. Et effectivement, le Front de Gauche, ils se sont rapidement fait vampiriser par Jean-Luc Mélenchon, qui, en bon trotskiste, s'y connaît. Et en 2012, ils se sont remis derrière Jean-Luc Mélenchon. Et en 2017, il faut quand même rappeler que malgré la direction du parti qui ne voulait pas être derrière Jean-Luc Mélenchon, c'est encore une fois, c'est les militants qui, par un vote interne, c'est assez démocratique finalement, par un vote interne, on dit on va suivre Mélenchon, on ne veut pas d'une candidature communiste. Là, Fabien Roussel, lui, il a une ligne qui est clairement anti-mélenchoniste sur des sujets qui sont des sujets majeurs. Sans doute pas sur la question de la souveraineté nationale, parce que Jean-Luc Mélenchon a compris, lui aussi, sur la question de la souveraineté nationale. En revanche, sur la question de la laïcité, sur la question de l'islamisme, Fabien Roussel est autrement plus clair que Jean-Luc Mélenchon. Et donc là, Fabien Roussel essaie quand même de créer, de recréer une gauche qui serait une vraie gauche populaire, qui n'irait pas frayer avec les islamistes ou avec un clientélisme, avec la diversité clientéliste que M. Mélenchon cultive. Donc il y a peut-être quand même une voix qui peut être entendue de la part des communistes de ce point de vue. Ils ont encore 600 et quelques communes. Et puis, malgré leurs faibles résultats aux législatives de 2007, ils ont quand même la chance encore d'avoir la rente parlementaire grâce à des groupes. Je ne sais pas comment ils font pour encore avoir des groupes à l'Assemblée. Les écolos et les RN n'ont pas de groupe, ni à l'Assemblée ni au Sénat. Les communistes en ont toujours. Donc, ils ont quand même encore une influence, des moyens d'agir. Fabien Roussel peut être celui qui fait renaître le Parti communiste, mais en le modernisant. Et attention, il y avait une enquête IFOP en 2020 pour les 100 ans du Parti communiste auprès des jeunes. Et 65% des jeunes jugeaient le communisme de façon négative, mais 60% des jeunes jugeaient le capitalisme de façon négative. Donc, il y a peut-être encore un petit trou de souris pour le Parti communiste, parce que l'anticapitalisme, il est encore puissant.
Vous êtes d'accord avec ça, Stéphane Vernet? Il y a encore un petit trou de souris pour le Parti communiste aujourd'hui dans le paysage politique français?
Je pense que la stratégie de Fabien Roussel, c'est une stratégie qui consiste à sauver les restes. Alors, j'explique. Effectivement, les communistes étaient la première force politique d'après-guerre. Ils se sont fait siphonner dans les années 70 par le PS. Le petit a mangé le gros. Et ce qui leur restait s'est fait siphonner par la France insoumise à partir de 2009. Ça a été très bien expliqué. Il ne leur reste pas grand-chose, mais il en reste quand même des petites choses. 600 communes, des groupes parlementaires à l'Assemblée et au Sénat. Et ce que se dit Fabien Roussel, c'est que s'il n'existe pas dans cette campagne politique de la présidentielle de 2022, c'est-à-dire s'ils ne se mettent pas en avant, s'ils ne se montrent pas, s'il n'y va pas avec ses propres couleurs, eh bien, les législatives qui suivront seront rédhibitoires pour eux. C'est-à-dire que là, pour le coup, ils perdront leur reste, c'est-à-dire leur groupe à l'Assemblée dans un premier temps, et puis ensuite leur groupe au Sénat dans un second, parce que tout ça est mécanique, si vous voulez. Et donc, en fait, il sait très bien qu'il ne sera pas président de la République, il sait très bien qu'il n'a aucune chance, mais il se dit que de toute façon, du côté de la gauche, c'est déjà perdu, parce qu'il n'y aura pas d'unité, et que donc, il a tout intérêt, lui, pour sauver les meubles, encore une fois, sauver ce qu'il reste, à y aller et à s'afficher tout seul. Ceci dit, le parti n'explose pas pour autant, parce que la candidature de Fabien Roussel, elle n'est pas actée. Il la met au pot commun et elle doit être discutée avec les militants.
Bon. Donc, bon. En tout cas, vous nous dites qu'il a raison d'y aller. On suivra ça, bien sûr.
C'est un calcul, c'est une stratégie.
Merci beaucoup à vous, les grandes voix du vendredi. Dans un instant, sur Europe 1, c'est toute l'info avec le journal de 19h de Christophe Lamarre.